Et nous allons passer toute cette semaine au cœur de l'association Valentin AUI, association que l'on nommera AVH tout au long de cette semaine et qui s'occupe des personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. On va en parler toute la semaine et découvrir les nombreuses activités avec son président, Christian Lerolle. Un mot simplement sur peut-être l'explication du nom de l'association.
Alors Valentin AUI, qui était-il? Eh bien, il s'est trouvé qu'il était le premier instituteur des jeunes aveugles. Il a créé l'Institut des jeunes aveugles à Paris près des Invalides et il a eu comme élève Louis Braille, l'inventeur de l'écriture en 6 points pour les aveugles.
Et on peut juste expliquer que Louis Braille était donc lui aussi aveugle par accident.
Hein. Ah oui, tout à fait. Hein. Il a perdu la vue par accident parce qu'il travaillait chez son père dans un petit atelier. Il a pris un éclat dans les yeux et il a perdu la vue. Le créateur de l'association a choisi Valentin AUI comme emblème plutôt que Louis Braille.
Alors plus significatif peut-être. Alors 122 ans et pourtant en ce qui concerne le Limousin, l'association est plutôt jeune alors que je suppose que les besoins étaient là.
Oui, les besoins étaient là et en Limousin, il n'y avait rien. Rien et rien, une petite antenne à Brive-en-Corrèze et rien en Creuse. Finalement, nous avons été créés en janvier 2004 et nous avons déjà 250 personnes qui sont venues et uniquement dans la périphérie, presque quelques-uns de Creuse, quelques-uns de Saint-Junien ou autre, mais il y a un besoin réel.
Alors vous êtes cofondateur, je l'ai dit, président depuis 5 ans. Comment vous êtes arrivé à prendre en main un petit peu la mise sur pied de cette antenne locale?
Alors ça, c'est le hasard. À un mariage, j'ai eu un ami qui m'a dit « Oh, est-ce que tu veux m'aider à créer le comité local ?» J'étais directeur du personnel, DRH. Déjà, le côté social m'intéressait et puis l'organisation aussi. Et j'ai eu le coup de foudre parce que la première personne qui est venue nous voir, c'était un homme qui venait depuis 2 ans de perdre complètement la vue. Il avait 35 ans, il était professeur, il a perdu son métier, il était en train de perdre sa femme et ses 2 enfants. Et aujourd'hui, il se promène partout en France avec un métier et il a eu un 3e enfant. Et c'était le coup de foudre.
Donc on se sent utile et ça fait plaisir. Voilà, c'est ce genre de belles histoires que vous avez envie de perpétuer. Et alors notamment sur les activités, parce que l'association propose différentes choses. Alors notamment pour commencer, du conseil.
Oui, ils ont besoin de conseils et puis de formation tout de suite pour savoir comment faire sa vie. Promener une canne blanche, hein, il y a des cours. Le braille, ça s'apprend. Et puis après, d'autres activités qui permettent de se réinsérer dans la vie sociale, parce que c'est ça, vie sociale et vie humaine.
Il y a aussi le côté matériel, l'aide matérielle qui est importante.
Il y a des verres mesureurs parlants, il y a des montres parlantes, il y a même les cannes, les embouts des cannes sucent très vite. Donc nous sommes le correspondant du magasin à Paris, où il y a 900 références de matériel adapté.
Mais aussi des partenaires culturels, parce que c'est évidemment extrêmement important de ne pas se cantonner à une aide purement matérielle. Et là aussi, vous avez des grands partenaires sur la région qui vous aident à ouvrir les membres de l'association à tout un tas d'univers.
Alors oui, y compris avec des musées. Nous avons du cinéma en audio description et maintenant nous avons commencé des contacts avec l'Opéra Théâtre de Limoges et une compagnie qui s'appelle Singulier Pluriel et qui va organiser des séances de théâtre en audio description.
Et puis c'est un vrai échange, c'est un mot qui reviendra souvent, on apprend beaucoup de l'autre, quel qu'il soit.
Vous interrogez n'importe quel bénévole, il vous dira qu'il reçoit énormément, hein. Le monde de la malvoyance ou du handicap, c'est une découverte.
Notre deuxième rendez-vous à l'association Valentin AUI. Et pour nous parler d'informatique, c'est ce que nous allons voir avec Joël Delera, qui est d'ailleurs le cofondateur hein, de cette association ici sur le plan local. Joël Delera, vous vous occupez aussi donc de l'activité informatique et vous me confirmez qu'aujourd'hui, même pour des déficients visuels, c'est évidemment l'outil absolument indispensable.
Oui, absolument. Hein, la découverte de l'informatique a été une véritable révolution pour les déficients visuels hein, dans la mesure où ça leur permet, avec un matériel relativement adapté, c'est-à-dire équipé de synthèses vocales, de plages braille, d'imprimantes braille, d'accéder au traitement de texte, à la messagerie, à l'internet, comme pour toute personne. La difficulté au départ, bien, c'est de s'équiper de ce matériel, mais aussi de s'y former hein, pour apprendre à l'utiliser de manière efficace.
Tout l'intérêt, c'est des associations comme la vôtre qui permettent effectivement de venir s'initier avec ce matériel à disposition et surtout d'apprendre à s'en servir. Alors, vous nous expliquez et on va voir un petit peu comment ça se passe concrètement en cas pratique.
Oui, donc quand j'allume mon ordinateur, la synthèse se met en route et elle me lit, en fonction des manipulations que je réalise, ce qui est affiché à l'écran.
Voilà, par exemple, si vous appuyez sur la barre espace comme vous venez de le faire,
espace.
Voilà, on entend effectivement la retranscription sonore.
Alors, par exemple, si je veux rechercher un site, on peut essayer d'ouvrir ces pages et de les lire avec la synthèse. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne.
Menu démarrage, favori sous menu, site web Microsoft sous menu, SC, fermeture des menus, 12 Internet Explorer Club.
Ça va vite, hein. La synthèse vocale n'a pas le temps de suivre.
C'est vrai que les non-voyants ont horreur de perdre du temps et ils adorent en général que la vitesse soit relativement rapide. Il est vrai que quelqu'un qui voit peut lire en diagonale en allant d'un angle de la page à un autre, ainsi de suite. Pour les non-voyants, ils sont pour la plupart obligés de tout lire. Donc pour tout lire, il faut aller vite pour pas perdre trop de temps.
Et donc en dessous, il y a la fameuse tablette donc en braille, donc là qui fonctionne comment ?
Alors, c'est ce qu'on appelle une plage braille qui en fait parallèlement à la synthèse vocale affiche chaque ligne qui correspond à la position du curseur et je peux lire ainsi en braille ce qui est marqué sur l'écran. Et donc là, par exemple, bon, j'ai cette recette qui est un gros caractère en noir et avec quelques manipulations, je vais la convertir bien sûr à l'aide d'un logiciel en braille,
hein.
Et dans un second temps, eh bien, je vais faire une manipulation qui va m'envoyer le texte vers l'imprimante braille, comme il m'enverrait un texte noir vers une imprimante normale. Alors, avec un capot insonorisant et un meuble, hein, qui permet d'atténuer un petit peu le bruit. Par contre, si on ouvre le capot, ouais.
Là, c'est l'imprimante vraiment qui imprime en braille. Alors d'ailleurs, vous êtes un spécialiste aussi du braille. C'est aussi une méthode qui est encore très utilisée aujourd'hui.
Le braille a toujours sa place aujourd'hui. Malheureusement, le braille demande beaucoup d'apprentissage. Donc, seules les personnes qui ont fait leur scolarité avec le braille ou qui l'ont beaucoup utilisé peuvent le pratiquer raisonnablement et efficacement. Les personnes qui apprennent le braille à l'âge adulte, c'est toujours possible, mais ont beaucoup de mal à maîtriser la dextérité de la lecture. Il faut développer le doigté au toucher, de distinction des points, puisque le braille, en fait, est constitué d'un ensemble de symboles représentés à partir d'une cellule de 6 points, à l'intérieur de laquelle on combine un ou plusieurs points pour donner une lettre braille. Hein, donc ces points, il faut pouvoir les déchiffrer avec la pulpe de l'index plutôt, parce que c'est elle qui est la plus sensible par rapport aux autres doigts. Bon, le braille est important, mais on peut vivre sans maîtriser et pratiquer le braille au quotidien.
Notre troisième rendez-vous ici au sein de l'association AVH, association Valentin à Huy. Nous sommes dans l'univers, on le rappelle, des non-voyants, des malvoyants. Et l'art est également largement représenté. Et c'est le cas, par exemple, aujourd'hui avec un atelier de peinture. Vous nous expliquez un petit peu.
Alors oui, ça a été créé à la demande des non et malvoyants. Et nous avons créé cette activité avec d'abord une artiste peintre qui était bénévole et qui aujourd'hui a donné le flambeau à deux jeunes femmes. Alors voilà Brigitte Blé.
Alors le premier contact avec cet atelier, Brigitte, comment ça s'est passé ?
Avec Béatrice, justement, ça a été miraculeux. Elle a su nous faire toucher la peinture, nous la faire sentir, et à notre façon, presque sans les yeux.
Alors vous êtes malvoyante, faut le préciser. Vous ne connaissiez pas du tout cet univers de la peinture ?
Du tout. Il faut bien avouer que lorsqu'il avait été question de cet atelier, je m'étais demandé si on me faisait pas croire à la lune, quoi. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Elle a vraiment été géniale, parce que elle nous a appris la peinture, un petit peu sans les yeux et un petit peu au toucher, en sentant le pinceau, en faisant nos couleurs, et ensuite en laissant vraiment libre cours à notre imagination.
Alors, je crois que ça a été au-delà d'ailleurs de ces ateliers, dans votre vie de tous les jours, ça a été un vrai bouleversement aussi.
Tout à fait, oui. J'avoue que du coup à la maison, moi, c'est devenu une passion. Et par contre, on met beaucoup de nous dedans. On met la colère des fois dans notre peinture, ou le bien-être, c'est un moyen d'expression, auquel elle nous a permis de toucher, et qui est formidable.
On va essayer de s'immiscer dans le travail, si elle arrive à nous entendre.
Je m'en mets plein les doigts.
Alors l'œuvre est en train de prendre forme, expliquez-nous alors comment vous travaillez et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, comment vous laissez aller le pinceau.
Je suis en train de faire un triptyque en fait, oui c'est pas très radiophonique. Donc j'ai fait sur trois toiles différentes, j'ai fait des grandes jarres, Donc moi, j'arrive à faire du figuratif, j'arrive à dessiner un petit peu, puisque moi, je suis malvoyante. Moi, tout de suite, le projet m'a emballée. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre. Et puis là, je m'y suis remise. Je ne travaille pas beaucoup chez moi. C'est vrai que je suis un petit peu feignante, donc beaucoup à l'atelier. Et puis avec Brigitte, on a repris le flambeau. Et puis bon, on essaye de transmettre les quelques choses qu'on connaît, qu'on maîtrise un petit peu. Et puis voilà. Moi, je fais beaucoup en aplat, à la Cézanne, entre guillemets. Ce serait bien prétentieux.
Avec les années, ça va prendre la même valeur, j'en suis sûre.
J'aimerais bien. Puis vous avez aussi le cas de François, donc lui, il parlera mieux. Il est le seul à parler de lui-même parfaitement.
Il est en plein boulot. François, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, comment vous appréhendez les choses.
Moi, j'ai beaucoup de mal à m'insérer dans un travail collectif, parce que je ne me rends pas trop compte, donc j'ai décidé de faire une représentation de la tourbière. Et là, j'utilise des techniques que j'ai encore jamais utilisées, un produit structurant.
Alors par exemple, là, en tête, qu'est-ce que vous avez exactement que vous allez essayer de reproduire sur la toile ?
Eh bien, ce qu'on m'a décrit de la tourbière des Doges, donc c'est une cuvette qui est remplie de tourbe. C'est le Conservatoire National des Doges, en Limousin. Et donc, il y a une espèce de petit monticule rocheux au milieu, ce qu'on appelle le puiron, que je suis en train de faire en matière structurée, quelques rochers de l'autre côté.
Maintenant, il ne reste plus qu'à faire travailler les mains sur cette toile, et ça commence tout juste à prendre forme. On pourra peut-être découvrir ça en venant vous rejoindre dans quelques mois.
Oui, presque comme un professionnel.
Notre quatrième rendez-vous au sein de l'AVH, l'association Valentin à Huy. Nous sommes donc dans l'univers des personnes déficientes visuelles et nous allons parler cuisine. C'est dommage, on n'est pas en odorama, j'en serais seul à en profiter avec François Laspera qui gère un petit peu cet atelier cuisine. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, c'est plusieurs fois par mois.
Voilà, c'est deux fois par mois. Une fois le matin, on prépare le repas et on le mange tous ensemble. Et une autre fois, c'est l'après-midi, on prépare plutôt un dessert, un gâteau qu'on mange ensemble ou un plat salé qu'on emporte.
Avec une spécificité, c'est ce repas dans le noir. Quel est le concept ? Ça sera pour ce soir ?
C'est pour ce soir, ça se fait depuis 2 ou 3 ans. Au départ, c'était ouvert aux voyants de l'association, puis des gens proches de nous, du Tandem Club, des gens qui s'intéressent un petit peu aux aveugles, qui avaient envie de vivre cette expérience. Et puis depuis l'année dernière, il y avait des malvoyants qui demandaient, je leur disais toujours non, c'est pas pour vous. Puis j'ai un petit peu changé d'avis. Donc cette année, il y aura la parité, il y aura des malvoyants, mais qui seront dans le noir. Ils seront pas non plus très à l'aise, parce que les malvoyants dans le noir, ils sont pas à l'aise comme un aveugle comme moi.
Ils sont moins habitués.
Voilà.
Alors, on va expliquer un petit peu comment vous avez procédé pour travailler. Le coup de feu est passé, donc là, on vous rejoint, c'est un peu plus tranquille. C'est quoi ce soir, quiche ?
Alors, ce soir, il y aura des canapés, pas d'apéritif, mais on prendra un petit vin perlin, un gaillac. Après, donc, il y aura une quiche qui est assez conventionnelle, facile à manger. Une timbale d'avocat aux noix, etc., avec des crevettes qui, en principe, ne seront pas décortiquées. Donc
sinon, c'est pas drôle.
Enfin, ça aurait pu être des langoustines à l'américaine, c'est pire, hein, avec la sauce. Et après, il y aura une daube de canard à l'orange et au poivre vert.
Ça paraît plutôt sympa. Alors, tous ceux qui nous écoutent et bien voyants se disent « Mais comment on prépare une telle recette ?» Des fois, nous-mêmes, on a un petit peu de mal dans la cuisine à comprendre les dosages, les proportions. Alors concrètement, comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez des moyens particuliers adaptés ?
Alors, on n'a pas beaucoup de moyens. On a plutôt des trucs. On a une balance vocale. On peut vous la faire écouter, si vous voulez.
Tant qu'à faire, on va profiter de la cuisine.
Avec un minuteur vocal, c'est à peu près le seul matériel adapté qu'on a.
1 kg 290 grammes.
Donc ça, c'est pour peser. Et donc après, alors si on vous dit...
On les pèse pas, on les vide.
Voilà. Et 20 centilitres, par exemple, de cette bouteille, comment on dose ?
Alors, il faut savoir qu'un verre basique de cuisine fait 12 centilitres de liquide. C'est ce que souvent les ménagères avant utilisaient, par exemple, il y a la recette de tous les gamins, où on mesure avec des pots de yaourt. Le pot de yaourt fait 12 centilitres. En plus, moi, j'ai un jeu de mesure, là, en plastique. Il y en a une de 0,5, une de 15, une de 25, que j'utilise aussi quelquefois, mais pas beaucoup, quoi, pas beaucoup. On a nos trucs, souvent. Là, par exemple, la marinade de canard, qui est au vin blanc, j'ai mis 2 petites bouteilles de 25 centilitres. Quand je mets des fois un petit peu d'alcool... pour flamber, pour faire un plat. Je débouche la bouteille, je mets mon pouce dessus, je bascule, je fais glop, 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 hop, c'est fini, c'est bon. C'est au bruit, je remplis pas trop les verres, il faut qu'il y ait pas trop de bruit. Autrefois, on montrait aux aveugles dans les instituts, on leur faisait mettre le petit doigt dans le verre. Moi, je trouve que c'est pas très propre, mais bon. Aujourd'hui, on a la réputation de l'atelier est allée jusqu'à Paris, et on a une jeune femme, la Cyril, qui vient pour la deuxième fois de Paris, tellement on est célèbre.
Et déjà notre dernier rendez-vous ici au sein de l'AVH, Association Valentin AUI. Je rappelle que nous sommes à Limoges, place d'Aisne, dans cet univers consacré aux aveugles, aux malvoyants. On a découvert toute la semaine de nombreuses activités, et notamment l'univers du livre, évidemment très important. C'est ce que vous proposez, Denise Vantenin. Vous êtes bénévole, vous vous occupez notamment de ce rendez-vous autour d'un livre. Expliquez-nous exactement comment ça fonctionne.
Ça se passe, il y a une séance par mois, tous les mardis et les mardis après-midi, le dernier mardi du mois. Alors, nous sommes deux ou trois voyants et il y a une dizaine de malvoyants ou de non-voyants. Elles prennent connaissance des livres au moyen d'un CD qui leur est distribué. Et puis, ça se passe comme dans n'importe quel club de lecture. Chacun dit ses sentiments, ce qu'il a retenu de la lecture ou de l'audition de l'œuvre. Et ma foi, les échanges sont très fructueux et ça se passe vraiment très bien. L'après-midi est souvent trop courte pour permettre à chacun de s'exprimer. Cela dépend évidemment de l'importance du livre.
Puis le livre, c'est l'imaginaire aussi. Vous sentez que c'est extrêmement important pour les non-voyants ou malvoyants, cet univers de la littérature?
Oui, c'est très important pour les malvoyants. Moi qui suis voyante, je ne vois pas de différence, vous voyez, entre les commentaires d'un non-voyant et les commentaires d'un voyant. Je vous dis, on a l'impression d'être dans un club de lecture ordinaire de personnes voyantes.
Un vrai échange, c'est ce qu'on a dit toute la semaine.
C'est un échange très très complet et ça conduit à un peu de fraternité aussi. On arrive à se connaître. C'est vraiment très très intéressant.
Et puis dans les autres activités assez surprenantes, c'est vrai quand on parle de non-voyants, de malvoyants, on pense pas forcément à la balade, à la randonnée, hormis évidemment avec la canne blanche ou avec le chien. Et pourtant, il y a des activités de randonnée. Cette fois, Christian Leroll, je rappelle que vous en êtes le président ici de cette association AVH. Expliquez-nous comment ça se passe. Ça, c'est quelque chose qui peut surprendre le grand public.
Alors, c'est la dernière activité qu'on présente, mais ça a été la première historiquement que l'on a créée, la randonnée.
Parce que c'est pas la randonnée en centre-ville, hein, on est bien d'accord.
Non, c'est en pleine campagne et puis même hors chemin de randonnée. Hein. Alors, il y a un accompagnateur voyant pour deux non-voyants ou malvoyants. Et l'atmosphère est extraordinaire. Vous avez les chiens, éventuellement, qui gambadent partout. Et nous, on entend ou on perçoit des choses que nous ne connaissions pas. Ou qu'en se promenant, on ne regarde pas. Le petit ruisseau qui chantonne, hein, eux, ils l'entendent bien avant. Et je me souviens de Vassivière, il y a un chemin pédestre avec des rochers qui sont sculptés ou taillés. Hein. Ben, eux, ils le touchent. Je me souviens de Nieul, où il y a une vierge noire. Eh bien, ils peuvent la toucher. Et pour eux, c'est extraordinaire.
Et on a bien compris que voilà, on voyait nous aussi les choses peut-être différemment en accompagnant ces randonnées-là. Alors pour terminer, qui dit association dit bénévole. On a des grands besoins ici. C'est un appel qu'on peut lancer à tous ceux qui voudraient vous rejoindre, découvrir cet univers et partager encore une fois. On apporte beaucoup, mais on reçoit beaucoup.
Ah, tout à fait. Moi, un des deux points clés. Hein. Bon, il y a l'aspect finance, c'est sûr. Mais le bénévole qui sait donner de son cœur et de son temps, accepte de recevoir, il a le déclic. Moi, candidat bénévole, j'en ai un aujourd'hui. Je lui dis, pendant 2 mois, je vous demande de participer à certaines activités et de voir. Et puis ensuite, vous direz, oui, j'ai le fit.